à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Salam alaikum, chers auditeurs. Dans la troisième lumière de l'initiation des disciples par Jésus, nous avons vu plusieurs moyens de purification. Arrivons à cet autre moyen qu'est la calomnie. Un jour, quelqu'un m'a dit « Pourquoi Dieu est-il si injuste envers moi? Je l'ai toujours servi avec fidélité et maintenant que j'approche de la fin de ma carrière, on méprise tout ce que j'ai fait de bon au cours de ces années de fidèle service à son œuvre. Pourquoi permet-il qu'une infâme calomnie me détruise de cette façon ? » Je lui répondis, « Je ne vois pas l'injustice, au contraire. S'il n'y avait pas de calomnie, Jésus n'accomplirait pas sa promesse. » Dans le sermon sur la montagne, il nous dit clairement qu'on parlerait faussement contre nous. Matthieu 5, 11. Où réside donc l'injustice, puisqu'il nous avait prévenus? Ce serait injuste s'il ne nous l'avait pas annoncé à l'avance ou s'il ne l'accomplissait pas. C'est l'occasion qui t'est offerte d'être heureux, comme l'annonçaient les béatitudes de Jésus. Nous avons tous fait la dure expérience un jour d'être mal compris ou condamnés pour quelque chose que nous n'avions pas dit ou fait. Nos responsables ont plus cru dans les autres qu'en nous. Supposant de mauvaises motivations de notre part, ils nous ont blessés profondément. Le pire de tout est que le silence de Dieu paraît complice de l'injustice et du mensonge. Alors, du fond de notre cœur, surgit un cri de détresse. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu d'Israël, pourquoi ne viens-tu pas en aide à nos troupes? As-tu oublié ton peuple? Pourquoi permets-tu qu'il bafoue le droit et la justice? Peu t'importe qu'on traite ainsi les tiens? Et comme Dieu ne dit rien, nous avons tous eu la tentation de renoncer à notre mission, à notre travail pastoral. Nous avons même repris l'argument de Moïse dans le désert, en chemin vers la terre promise. Je le cite, « Pourquoi as-tu fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, où il y avait du pain et de l'eau? N'y avait-il pas assez de tombes dans le pays de Pharaon pour que tu nous fisses venir dans ce désert ingrat pour être donné en pâture aux oiseaux de proie? Bien plus !» Que vont dire de toi les autres peuples, ô Dieu? Ton nom va être foulé aux pieds par toutes les nations à cause de notre disgrâce. Tu apparaîtras comme un Dieu incapable de sauver son peuple. Qui voudra alors te suivre et croire en toi? Sauve-nous, Seigneur, pour l'honneur de ton nom. Et cependant, aujourd'hui comme alors, il semble que Dieu n'écoute pas et que peu lui importe la clameur de son peuple qui gémit sous l'injustice. C'est que, dans ces circonstances, le plan de Dieu n'est pas de montrer sa puissance, ni d'étendre un bras vengeur, mais de purifier ceux qui ont vécu sous le complexe d'esclavage, esclavage en tout genre, pour forger un peuple nouveau capable de conquérir la terre promise. Moïse essayait de faire du chantage avec Dieu, lui montrant comment son saint nom serait profané parmi les nations. Les autres peuples se riraient du Dieu d'Israël et aucun homme ne croirait en sa bonté. Dieu sacrifie sa gloire pour poursuivre son œuvre de purification parmi les siens. Cet aspect est extraordinaire. Dieu nous aime tant qu'il court le risque de perdre son prestige devant tout le monde. Il a tellement le désir de faire de nous des créatures nouvelles que peu lui importe d'être mal compris. Et, si Dieu, lui, est prêt à prendre, est prêt à perdre sa propre réputation, sommes-nous préparés, nous-mêmes, à voir notre image abîmée et notre statut renversée? Il faut qu'il reste bien clair pour nous que Dieu ne désire pas notre souffrance, sinon notre purification, mais cette dernière est toujours douloureuse. La calomnie peut ainsi devenir un merveilleux moyen de démontrer que nous ne servons pas le Seigneur pour un quelconque avantage personnel. Quand nous arrivons à le servir au milieu des difficultés, alors notre don est beaucoup plus désintéressé. Quand on essaya de persuader Sancho Panza d'abandonner Don Quichotte, l'idéaliste qui prétendait atteindre des lointaines étoiles et conquérir des royaumes inexistants, lui montrant qu'avec ce maître monté sur un cheval famélique, il ne gouvernerait jamais la moindre petite île, quand de mille façons on lui démontra qu'il ne tirerait aucun avantage de cette aventure chevaleresque, si ce n'est des moqueries et des rires, quand on exigea de lui une raison logique pour laquelle il suivait le fou de la Mancha, alors le paysan rebondit, les larmes aux yeux, et donna la raison de fond. Je le cite, « Je le suis parce que je l'aime. Je l'aime beaucoup, et je ne peux plus le laisser seul. Même si nous n'atteignons pas les étoiles et que nous ne pouvons pas vaincre les ennemis, je dois le suivre jusqu'à la fin. Sinon, qui va le relever lorsque le moulin à vent l'aura fait tomber? Qui va panser ses blessures? Qui osera devenir son écuyer? Qui partagera toutes ses disgrâces? Quand, malgré toutes les embûches, nous suivons le Seigneur jusqu'à la croix, nous prouvons que nous n'avons pas d'autre motivation que celle de son amour, au-delà de notre réputation, de notre prestige ou de notre renommée. Nos motivations ont été purifiées et nous le suivons pour lui-même et non plus pour ce que nous recevons de lui. Nous le servons et nous ne nous servons pas de lui. Un autre moyen de purification est le dépouillement. Dieu promet que tout travailleur mérite son salaire et que celui qui sert à l'autel doit vivre de l'autel. Mais parfois le Seigneur nous prive du salaire attendu pour purifier notre dévouement à son service. Parfois même, il nous envoie sans rien et nous interdit de recevoir quoi que ce soit, pour ainsi nous garder libres à son seul service à lui. Quand Jésus envoya ses disciples, il leur dit clairement de ne pas emporter de bourse pour la route. S'ils s'occupaient des choses du royaume, le Seigneur veillerait lui-même sur tous les besoins. Jésus voulait leur apprendre à séparer complètement le ministère des finances. Non seulement ne jamais dépendre de l'argent, mais ne jamais mélanger les plans. La seule fois où l'on vit Jésus sortir de lui-même et ne plus se contrôler, ce fut face aux marchands du temple de Jérusalem. L'unique salaire de l'apôtre doit être le bonheur d'avoir annoncé l'Évangile. Le pire qui puisse arriver à un serviteur de l'Évangile est de vendre son ministère au prix de certains bénéfices qu'il pourrait recevoir des autres. Si l'on accepte un don, il faut rester libre et vrai. Le don ne donne aucun droit au donateur, sur le prêtre ou sur le consacré qui le reçoit. La prière est la seule reconnaissance. L'apôtre ne doit pas se demander ce qu'il gagne à servir le Seigneur, mais bien plutôt ce qu'il perd. Si nous ne perdons rien, renom, réputation, autorité, privilège, bien, etc., il faut examiner sérieusement si nous servons le Seigneur ou si on nous sert nous-mêmes. De façon concrète, il nous faut répondre à ces deux questions. Qu'ai-je déjà perdu pour le Seigneur? Et quelles sont les choses que je ne suis pas prête à perdre pour le Seigneur? Titre, prestige, autorité, etc. Prions.
Comme
Jésus a expérimenté tout à la fois le succès et l'échec en 24 heures. Une après-midi, la foule affamée l'avait suivi à travers le désert ingrat. Par la force de sa parole, il avait multiplié les pains et les poissons. La multitude le reconnut comme le Messie attendu et le proclama roi d'Israël. Le lendemain, encore aux fêtes de la gloire, il se rendit à la synagogue qui était pleine. Le sermon annoncé pour ce matin-là avait causé une grande attente à cause du récent miracle de la multiplication des pains. Le chef de la synagogue l'invita à lire les Écritures. Le maître se mit debout et prit les rouleaux dans ses mains, et la tête couverte d'un voile, lut le passage de la manne dans le désert. Tous les yeux étaient fixés sur lui, et un respectueux silence l'invitait à expliquer le passage. Personne ne le contesta quand il se référa à cet événement du passé. Mais lorsqu'il se l'appliqua à lui-même, affirmant qu'il était le véritable pain de vie, un grand doute jaillit dans l'assemblée, au milieu d'un murmure général. Lorsqu'il dit que sa chair devait être mangée, les pharisiens quittèrent la salle. Le pire, ce fut lorsque ces juifs pieux, qui ne touchaient jamais de sang, quel qu'il fût, entendirent qu'il fallait boire le sang du Fils de l'homme pour avoir la vie éternelle. Personne ne supporta cette affirmation et tous les bancs se vidèrent. Jésus ne put même pas achever son discours. Il ne restait personne dans la synagogue. Immédiatement, après le plus grand des succès, il expérimenta le pire de ses échecs. Seuls les 12 inconditionnels étaient restés aux côtés du maître. La tête rivée au sol, il partageait la honte de l'échec. Après un silence intense, Jésus les regarda avec tendresse et leur dit « Si vous voulez, vous pouvez partir, vous aussi. Vous n'êtes pas obligés de me suivre. » Personne ne bougea. Alors le maître ajouta « Pourquoi ne partez-vous pas ? Voyez qu'avec moi, vous n'aurez aucun avantage. Je n'ai rien à vous offrir. Quand il voulait me proclamer roi, vous auriez pu espérer une charge ou un titre. Mais maintenant, ce qui vous attend ne seront que persécution et mépris. » Alors, Pierre prit la parole. Avec une absolue sincérité, il lui répondit « La vérité est que c'est vrai que nous avons envie de partir. À être avec toi, on nous critique. À te suivre, on nous accuse et on nous montre du doigt. La seule chose que nous avons, ce sont des problèmes. Parfois, nous n'y tenons plus. De plus, de ton côté, nous ne voyons pas que tu restaures le royaume, ni ne nous a rien donné pour te suivre. Ce qui est vrai, c'est qu'avec toi, nous ne gagnons rien. Parfois, nous avons discuté entre nous et nous avons tous pensé te quitter. Mais tu es le seul qui nous reste. Même si nous voulions partir, nous ne le pourrions pas. Nous avons brûlé nos bateaux et il ne nous reste plus que toi, Seigneur. Que dire alors de la persécution des bons? Certainement, lorsque nous sommes poursuivis par le monde, il nous reste la joie de souffrir pour le nom de Jésus-Christ, comme Pierre et Jean, qui sont heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mais quand nous sommes poursuivis au nom de Dieu, par ceux qui sont le sang de notre sang, il n'y a aucun type de récompense. Au contraire, nous sommes jugés précisément comme ennemis du plan divin. La persécution du monde nous décore de la palme du martyr, mais la persécution des bons nous condamne en vie. Jésus fut condamné précisément par les autorités religieuses de son temps, les pasteurs mis en place par Dieu pour diriger son peuple furent ceux-là même qui s'opposèrent au dessein divin et crucifièrent le Seigneur de la vie. Dans la vie des prophètes et des saints, nous voyons continuellement comment se répète ce phénomène. Ils ne sont pas compris par les autorités religieuses, sont persécutés, voire chassés ou condamnés à mort. Les pasteurs et les représentants de Dieu les obligent à garder le silence, les empêchant d'accomplir leur ministère, les traitant d'ennemis de l'ordre établi. La persécution de ceux qui agissent au nom de Dieu est la plus difficile à comprendre, parce que ce sont précisément les gardiens de la foi qui s'opposent à la manifestation de Dieu. Il semble qu'ils aient tout pouvoir pour violer les droits de la personne et l'humilier. Jeanne d'Arc fut jugée par l'Inquisition et condamnée à mort par les 70 théologiens de l'évêché de Paris. Nous ne trouvons aucun saint qui ait été canonisé de son vivant. Les vrais prophètes ont toujours souffert la persécution des défenseurs de l'ordre. François d'Assise ne fut pas reconnu. On refusa même la règle de vie qu'il avait choisie pour ses frères, l'Évangile. On l'obligea à compliquer tout ce qui est simple. Mais, pour ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt à leur bien, affirme la parole de Dieu, Romains 8, 28. Si nous restons aux symptômes du phénomène, nous ne pourrons jamais découvrir le dessein de Dieu. Quand les bons nous persécutent, nous ne pouvons remercier personne sinon Dieu. Quelle libération ! Quand ceux qui sont au sommet de la structure religieuse nous persécutent, alors nous pouvons nous confier uniquement à Dieu. Ne pensons pas que c'est une attaque de Satan. Non, voyons cela comme une occasion merveilleuse de montrer au Seigneur que rien ni personne ne nous arrêtera pour le servir. C'est à ce moment-là que nous pouvons prouver au Seigneur que nous le servons et nous le suivons jusqu'à la croix. Ceci ne signifie pas que Dieu permet les injustices ou consent à la violation des droits humains, ni encore moins qu'il est d'accord avec la mort. Non. Jamais il ne pourra être l'allié d'une quelconque force du mal. Cependant, il est capable d'écrire droit sur des lignes courbes. Sa puissance transforme cette injustice en un merveilleux moyen de purification. Mais pourquoi nous purifie-t-il? Parce que nous en avons besoin. Nos pieds sont empoussiérés sur le chemin de la vie. Et nous avons besoin d'être lavés avec l'eau ou purifiés au feu, surtout quand on a mené une vie pleine de sensualité désordonnée, de matérialisme. On doit changer tout au fond et pas seulement en surface. La conduite morale peut être transformée en une minute, mais le changement de mentalité demande plus de temps et une méthode spéciale. Un converti récent peut tomber dans la tentation de transplanter ses anciens critères et valeurs à l'œuvre de Dieu, laquelle s'accomplit à travers des méthodes différentes et parfois opposées à celles du monde commercial et social. D'un côté, celui qui a vraiment vécu dans la perdition ou les désordres doit passer un bon temps de réhabilitation. De même, ceux qui ont vécu des valeurs du monde ont besoin d'une étape de purification. Nous pensons à notre chère Marie, appelée Magdeleine. Chers auditeurs, sainte semaine, soyez bénis, et surtout Marise et son frère à Jougné. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May. fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.